Merci aux amis du monde diplomatique et à Daniel Bernorand de l'invitation. Désolé pour le couac lié au problème de salle qui était à l'insu de mon plein gré. Moi, je ne suis pour rien, mais bon, je suis content de vous voir quand même nombreux. Alors, d'abord, je vais simplement dire qu'il est possible, que je dise des choses qui vous choquent. Si c'est le cas, croyez que ce n'est pas volontaire, je ne cherche pas à choquer pour le plaisir de choquer, et je suis prêt à répondre à toutes les questions après. Il y a des choses qui peuvent vous surprendre, vous choquer. Sachez aussi que ma position, dans le fond, est très modérée. Je pense que sur certaines choses, ma position paraît radicale, uniquement parce que l'époque dans laquelle on vit est, de mon point de vue, radicale. Radicale dans la mauvaise direction, mais radicale. Et je pense que les opinions que je défends sont au contraire très modérées. Mais évidemment, il faut qu'on soit propice. Alors, le plan de ce que je vais essayer, d'abord, je vais effectivement me limiter à ce que moi je préfère faire, c'est-à-dire vraiment réfléchir sur des idées. Réfléchir sur des idées, pas tellement sur des faits, mais réfléchir sur des. Faire une critique idéologique, si vous voulez, de la situation actuelle. Et en particulier, je vais faire quelque chose que probablement les AMD ne font pas tellement. Ce n'est pas une critique du système, mais une critique de l'antisystème, si vous voulez, ou de la, une critique de la gauche. D'accord ? Je fais une critique de la gauche d'un point de vue de gauche, mais qui n'est pas un point de vue de droite. D'accord ? Mais c'est quand même une critique de la gauche, une autocritique, si vous voulez, d'une partie de la gauche. Et c'est une réflexion là-dessus. Et qui alors là, justement, peut paraître hétérodoxe ou peut paraître choquant par moment. Justement, vis-à-vis d'un public dont je m'attends que, qu'il soit de gauche, vu qu'il est lié aux amis du monde diplomatique. Alors, je vais d'abord partir d'un constat avec lequel j'espère que vous serez d'accord, c'est qu'on se trouve aujourd'hui dans une crise du système, tout le monde est d'accord pour parler de crise du système, y compris les économistes libéraux, ben, oui. Ils disent peut-être que la crise est passée, mais enfin, ils reconnaissent qu'il y a eu une grosse crise. Il y a encore une crise en Grèce, il y a des problèmes des banques en Grèce. Enfin, je veux dire que la crise est passée, c'est très optimiste de leur point de vue, mais bon. Mais moi, je remarque qu'il n'y a rien comme opposition. Il me semble que la crise de la gauche, à l'heure où il y a la crise du système, est d'autant plus grave et d'autant plus manifeste que la crise du système est grave. On peut se réjouir en disant, regardez, le système est en crise, mais que fait-on pour y répondre? Que fait-on? Rien, et personne ne sait que faire. Et quand j'ai posé la question, quand j'ai donné ce titre un peu provocateur, je me suis dit, oui, effectivement, ma réponse n'est pas la réponse communiste classique, c'est pas Lénine, c'est pas Cohn-Bendit, première version, mai 68, c'est pas Cohn-Bendit, première version social-libérale, mais que peut-on faire? Et en fait, je n'ai pas beaucoup de réponses à la question, mais je voudrais commencer par faire un panorama de l'histoire de la gauche et du socialisme, un panorama idéologique, depuis les origines jusqu'à, disons, la crise de 83-81, l'accession de Mitterrand au pouvoir, et ce qui s'est passé après, me concentrer sur ce qui s'est passé après, et puis essayer d'expliquer pourquoi ce qu'on pourrait appeler la gauche mitterrandienne, ou la gauche qui est arrivée à l'époque, nous a mis dans une impasse dont je ne sais pas très bien comment sortir. Je vais essayer de dire ce qu'on pourrait faire, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en sortir. Je vais même terminer en soulevant deux problèmes auxquels je n'ai pas répondu. Alors, la racine, pour moi, c'est important de comprendre la racine du socialisme au XIXe siècle, de repartir du XIXe siècle et de partir des origines libérales du XIXe siècle, du socialisme du XIXe siècle. Marx est un enfant des Lumières, il est un enfant du libéralisme des Lumières. Je n'ai jamais oublié ça. Rien ne m'énerve plus que l'expression « gauche anti-libérale ». Parce que quand la gauche se dit anti-libérale, elle veut dire qu'elle est anti-néolibérale et elle devrait dire qu'elle est anti-capitaliste. Mais elle ferait mieux, au lieu de dire toujours qu'elle est anti quelque chose. Ça va ? Avant, ça n'est pas ? Je recommence à zéro. Non, non, non. Ok. Donc, la gauche dite anti-libérale, c'est un terme que je trouve extrêmement maladroit parce que elle voulait dire anti-capitaliste, mais elle ferait mieux de dire qu'elle est pro quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la gauche est toujours anti. Elle est anti-raciste, elle est anti-fasciste, elle est anti-capitaliste, elle est anti-libérale, elle est anti-OGM, elle est anti-nucléaire, etc. Mais elle est pourquoi ? D'accord ? Ça, c'est une question qu'on peut déjà se poser. Bon. Mais on y reviendra. Mais qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? Pour moi, le libéralisme classique, pas les libéraux actuels. Les libéraux actuels n'ont rien à voir avec le libéralisme classique. Mais les libéraux classiques, c'était des gens qui voyaient deux pouvoirs oppressifs en face d'eux qui étaient l'État absolutiste et l'Église, et qui pensaient s'en libérer, et qui pensaient qu'en libérant cela, l'être humain, l'individu, pourrait réaliser son plein potentiel. Et donc, leur version, il faut aussi comprendre ça, que leur version du marché libre n'avait rien à voir avec la version actuelle, parce que c'était une société essentiellement de petits producteurs. Et disant, si ces petits producteurs peuvent se libérer de la tutelle de l'État absolutiste et de l'État et de l'Église, alors ils pourront éventuellement interagir, et c'était leur espoir, ça mènerait à une situation de l'humanité. Alors c'est important de comprendre que, d'une certaine façon, quel était leur projet avant de le critiquer, et de comprendre que ce projet a échoué, il a échoué, comme beaucoup de projets dans l'histoire, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, il a échoué, mais il a échoué parce qu'en libérant des forces du marché, on a eu en même temps, avec la révolution industrielle, la naissance de la grande industrie. Et avec la naissance de la grande industrie, on a eu une concentration de pouvoir entre les mains des capitalistes, on va utiliser ce terme, des capitalistes, qui n'étaient pas très différents, étaient différents, mais n'étaient pas tellement différents du pouvoir concentré contre lequel les libéraux s'étaient battus, le pouvoir de la féodalité, de la monarchie, de l'Église. D'accord ? À partir du moment où des gens possèdent des moyens de production, des individus possèdent des moyens de production, ils peuvent dicter aux gens qui n'ont à vendre que leur force de travail, leurs conditions de vie, leurs conditions d'habitat, leur mode d'existence, etc., qui fait que l'épanouissement individuel, la réalisation de l'individu dans ses aspirations personnelles devient de facto impossible, même si en principe, sur le papier, les droits de l'homme existent, il y a la démocratie jusqu'à un certain point, etc., etc. En plus, le processus démocratique est intrinsèquement perverti par cette concentration entre quelques mains des moyens de production, puisqu'ils peuvent alors, grâce à cela, acheter les députés, faire pression sur les parlements, faire pression sur les gouvernements en disant « Oui, mais ça, c'est la version moderne, mais c'est pas gentil avec nous, on délocalise, on va chercher ailleurs, etc. » Et ça, c'était donc, si vous voulez, et alors, en plus, j'anticipe un peu, parce que ça, c'est pas le 19e, mais au 20e, la concentration entre quelques mains des médias fait que même l'information, même la liberté de discussion, la liberté de débat, qui étaient les conquêtes du libéralisme classique, sont perverties parce que, finalement, les médias sont entre les mains de quelques puissants et ça détermine, et ça a été suffisamment montré, je crois, dans les études d'Archimède ou Hermann et Chomsky et tout ça, que ça pervertit le processus de discussion libre dont devaient émerger les solutions d'un point de vue libéral. Mais c'est pas parce que le libéralisme classique a échoué qu'il faut rejeter les idéaux qu'il défendait. Et je pense que Marx et Engels et les autres socialistes, y compris Bakounine, Kropotkine, etc., tous les socialistes du 19e siècle, dont je pense qu'ils avaient des différences, mais dont les différences ne sont pas si grandes comparées à ce qui est venu après, ces gens-là, leur leitmotiv, c'était que, pour résoudre le problème créé par cette concentration, il fallait socialiser les moyens de production, il fallait supprimer la propriété privée des moyens de production et les socialiser. Socialiser ne veut pas dire étatiser, ne veut pas dire les nationaliser, ne veut pas dire les mettre sous le contrôle du gouvernement. Ça, c'est des idées que vous avez, parce que vous avez connu le 20e siècle, mais au 19e siècle, l'idée n'était pas ça. La socialisation, c'est le contrôle effectif par la population, par les travailleurs de l'entreprise, par la société, etc., mais un contrôle de la production qui est déjà socialisé. Ça, c'est la grande idée. C'est que, à partir du moment où on ne se trouve plus face au paysan dans son champ, à l'artisan dans son village, au marchand de glace, si vous voulez, au coin de la rue, mais face à des grandes entreprises, ce qu'on appellerait maintenant les multinationales, la production est socialisée. Ce n'est plus la production de l'entrepreneur individuel. Et à partir du moment où elle est socialisée, la démocratie, l'idée libérale fondamentale de la démocratie, exige que cette production, qui est tellement essentielle à la vie des gens, soit socialisée, soit sous un contrôle démocratique. Donc, si vous voulez, le socialisme, pour moi, n'est rien d'autre que l'extension du libéralisme ou de la démocratie à la sphère économique, qui est rendue nécessaire par l'émergence de la grande production. C'est assez important à comprendre, parce que ça n'a rien à voir avec... C'est une idée, si vous voulez, qui me paraît totalement juste, qui me paraît totalement naturelle, qui me paraît extrêmement fondamentale, et qui est particulièrement oubliée de nos jours, dont on ne parle plus. Parce que quand vous avez le débat entre la gauche et la droite, c'est presque toujours un débat entre l'État et le marché. Mais pour moi, la question n'est pas l'État ou le marché, c'est qui décide dans les entreprises. Est-ce que ce sont les travailleurs ou la collectivité? Pas nécessairement l'État. On pourrait avoir des règles. On pourrait imaginer une société où toutes les entreprises sont autogérées par les travailleurs et sont toutes en relation par des mécanismes purs de marché. Je ne dis pas que c'est souhaitable, Je dis simplement que vous pouvez l'imaginer, et c'est bien d'imaginer pour comprendre la différence entre le contrôle social de la production et l'étatisation. Ce sont deux choses différentes. Maintenant, je ne suis pas contre une intervention de l'État dans l'économie, mais c'est tout autre débat. Et donc c'est important de comprendre ça, et c'est aussi important de comprendre que le socialisme émerge d'une façon naturelle comme une réaction à l'échec du libéralisme. Mais il n'est pas anti-libéral dans le sens profond du terme. Il accepte la liberté d'expression, il accepte la liberté de débat, il accepte la démocratie, il accepte le pluralisme, etc. Il accepte les conquêtes des Lumières. Mais il dit, il y a ce problème de la concentration. Bon. Alors, ce mouvement, si vous voulez, il a quand même cru tout au cours du 19e siècle. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est effondré avec la guerre de 14. La guerre de 14, ça a été l'échec du socialisme classique. Parce que, et d'ailleurs c'est très intéressant de lire des textes d'avant 1914, de lire des textes des socialistes classiques, parce que les textes des socialistes d'avant 14 étaient remarquables, je trouve. Même par exemple Kautsky, le renégat Kautsky, comme disait Lénine, si vous lisez Kautsky, c'est très intéressant, c'est beaucoup plus radical que tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est un social-démocrate allemand, mais il avait un programme de socialisation de l'économie, si vous voulez. Et donc, vous en avez d'autres, mais je veux dire, même ceux que l'histoire a gardés comme étant des gens qui étaient compromis, traîtres, etc., en fait, si vous les lisez maintenant, il n'y a aucun socialiste, même le NPA ne va pas signer des choses pareilles. Je veux dire, c'est beaucoup plus radical que ce que vous avez aujourd'hui. Alors, comment on est arrivé à la situation actuelle? Mais je pense que la guerre de 14 a été l'effondrement pour deux raisons. De la guerre de 14, il ne faut jamais oublier ça, sont nés le communisme, ou le bolchevisme, si vous voulez, et le fascisme. Maintenant, loin de moi l'idée de dire que c'est la même chose, c'est pas ça la question, je vais rentrer là-dedans. Mais ce sont deux phénomènes qui ont d'une certaine façon profondément handicapé le projet socialiste. Le bolchevisme, parce que ça c'est une longue discussion et ça c'est un premier point où je risque de vous choquer, mais pour moi, l'interprétation que je donne au mouvement bolchevique en Union soviétique, c'est tout à fait différent de ce qui a été donné en Occident en général, en particulier par les partis communistes. Mais aussi par leurs adversaires, trotskistes, maoïstes, etc. Pour moi, l'aspiration fondamentale du bolchevisme, c'est la modernisation d'un pays arriéré qui était l'Union soviétique. Ça, c'était l'aspiration, et c'est quelque chose qui a été remarqué, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était remarqué en 1920 par Bertrand Russell, quand il va, le socialiste et rationaliste anglais, qui va en 1920 en Union soviétique, qui rencontre d'ailleurs Lénine, Trotsky, etc., qui écrit un livre qui s'appelle La pratique et la théorie du bolchevisme, et qui décrit ça très bien, il dit que ce sont des fanatiques de l'industrialisation, ils vont poursuivre l'œuvre de Pierre le Grand, et s'ils le font, c'est très bien. Mais s'ils prétendent être les représentants de ce qu'il y a de plus avancé dans le socialisme européen, alors il faut les condamner pour cela. Et ça, c'est exactement ce qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire « eux, c'est eux, nous, c'est nous ». Eux se développent, ils ont une toute autre situation. Bon, ils font ce qu'ils font. Mais nous, socialistes européens, nous devons ne pas être pour ou contre, ne pas nous déterminer en fonction de l'Union soviétique. Malheureusement, et ça c'est particulièrement en France, plus encore que dans d'autres pays européens, la gauche est divisée en deux. Une partie radicale, majoritairement communiste, il y avait une partie radicale anarchiste, mais qui était très marginale, une partie radicale qui a exactement fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire de voir dans les réalisations de l'Union soviétique l'incarnation de ce qui a été avancé dans le socialisme européen. Il dit ça c'est la réalisation, ça c'est la construction du socialisme. C'est vrai que les soviétiques le disaient aussi par moments, ils ne disaient pas que ça, parce que les soviétiques avaient aussi un discours de développement, etc., autocentré, etc. L'erreur est vraiment en Occident, chez les communistes occidentaux. Mais l'erreur des communistes occidentaux n'est pas qu'ils ont commis le crime de soutenir l'horrible Staline, etc. Ils ont détruit d'une certaine façon l'idée du socialisme ici, en identifiant les aspirations du socialisme et ce qui se passait de facto en Union soviétique. Qu'ils ont jolifié pendant un certain temps, puis quand on s'est rendu compte que ce n'était pas si joli, ça s'est retourné contre le socialisme. Et en divisant d'une certaine façon le mouvement socialiste, dans ce sens que l'autre partie, la partie social-démocrate, a regroupé les éléments les plus mous. Ces éléments les plus mous étaient évidemment alors ceux qui étaient qui dérivaient le plus vers les compromis de classe, vers la collaboration de classe, etc., etc. Mais n'empêche, l'erreur, il y a quand même une erreur fondamentale qui était cette identification que je peux comprendre psychologiquement, mais qui est quand même une erreur du socialisme avec ce qui se passait en Union soviétique. Et en particulier, évidemment, ça a renforcé l'idée que le socialisme, c'est l'étatisme.
Et ça, je suis pas d'accord. Le socialisme, c'est pas l'étatisme, c'est pas nécessairement l'étatisation. C'est la socialisation, c'est pas la même chose. D'autre part, évidemment, on a eu le fascisme, le nazisme. Alors, une grande partie de l'énergie de la gauche, pendant toutes ces années-là, a été le combat contre le fascisme qui s'est terminé en 1945 avec, en plus, la victoire de l'armée rouge, qui a encore renforcé, si vous voulez, le problème de l'identification du socialisme avec l'Union soviétique, à cause du succès et de l'admiration naturelle, si vous voulez, qu'il y avait pour l'Union soviétique. Un autre problème qui se posait au socialisme, c'est que l'impensée du socialisme du 19e siècle, et ça c'est leur erreur à eux, si vous voulez, c'est le colonialisme et l'impérialisme, qui sont revenus nous hanter d'une certaine façon au 20e siècle. Le colonialisme et l'impérialisme, bon, il y a beaucoup de discours simplistes sur le colonialisme et l'impérialisme, où on voit l'Occident comme étant purement un produit de l'exploitation coloniale, etc. Ça, je ne crois pas. Mais ce que je crois profondément, c'est que l'existence d'un arrière-monde, d'un arrière-pays, d'un hinterland, comme on dit en allemand, par rapport à l'Europe, a toujours biaisé notre développement. Alors, pour expliquer ça simplement, pour ne pas rentrer dans une grande théorie sur l'impérialisme, etc., je vous demande d'imaginer le scénario suivant. Imaginez que l'Europe, ou l'Europe occidentale, soit une île entourée de mer, et tout le reste du monde est de la mer. L'Afrique, c'est de la mer, l'Asie, c'est de la mer, l'Amérique, c'est de la mer, etc. Et il y a juste l'Europe. À quoi ressemblerait notre développement par rapport à ce qu'il est réellement? Il n'y a pas d'or d'Amérique, il n'y a pas de commerce des esclaves, il n'y a pas de colonisation de l'Afrique, il n'y a pas de pétrole du Moyen-Orient, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de travailleurs immigrés, tout est changé. Donc d'une certaine façon, quand vous réfléchissez à ça, vous voyez que quelle que soit la théorie que vous ayez sur l'exploitation, le concept d'exploitation, de valeur, de tout ça, le développement de l'Occident, contrairement au développement des sociétés traditionnelles, parce que si vous prenez les sociétés traditionnelles, elles, évidemment, elles vivaient en autarcie, et c'était très différent. Le développement de l'Occident, aussi valide soit-il sur certains aspects, a toujours dépendu, en tout cas jusqu'à présent, de l'existence d'un monde extérieur à nous, où on pouvait déverser d'une certaine façon nos problèmes et aller chercher les richesses qui nous manquaient. D'accord ? Déverser nos problèmes, c'est par exemple l'immigration, quand les Européens faisaient trop d'enfants, parce qu'à une époque ils en faisaient trop, entre guillemets, et ils ont envoyé simplement coloniser l'Australie, l'Amérique, l'Afrique, etc. Et donc c'était un problème, une façon de résoudre nos problèmes qui n'existent plus aujourd'hui. Il y avait l'accumulation d'or et d'argent venant d'Amérique latine, etc. Bon, ça c'est aussi quelque chose que d'autres pays ne peuvent pas faire aujourd'hui. Il y a le flux constant pratiquement de travail immigré bon marché. Donc vous avez ce biais, si vous voulez, dans le développement qui est revenu, on y reviendra plus tard, qui a beaucoup d'importance dans la situation actuelle, mais qui, à l'époque, au 19e siècle, n'était pas perçu comme tel. Alors, évidemment, il y a eu, en plus, après ça, venons à l'après-guerre, il y a eu des luttes anticoloniales, ça c'était aussi une partie qui a absorbé une certaine énergie, si vous voulez, de la gauche, mais il y a eu pendant cette période-là quand même quelque chose que je trouve important, qui a commencé plus ou moins dans les années 30 avec le New Deal aux États-Unis, etc., et que j'estime qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'on a tendance à sous-estimer, c'est ce que j'appellerais les gains sociodémocrates. Les gains sociodémocrates, c'est l'existence de la sécurité sociale, la généralisation de l'enseignement, la démocratisation de l'enseignement, les pensions, l'assurance maladie, l'assurance chômage, etc. Tous ces gains et toutes ces idées, il faut quand même le reconnaître, vont contre l'idéologie libérale classique, enfin classique, pas l'idéologie libérale classique du 18e, mais l'idéologie libérale telle qu'elle devient au moment du développement du capitalisme, où le libéralisme, ce qui se dit libéralisme, à mon sens, n'est plus du tout libéralisme. Le vrai héritier du libéralisme, comme je l'ai dit, c'est le socialisme, mais ce qui devient le libéralisme devient la défense du grand capital, de la propriété privée de moyens de production, au nom de la défense de la petite entreprise, au nom des idées libérales. On transpose les idées libérales à une situation nouvelle et on dit, l'épanouissement de l'être humain, c'est le libre marché, y compris quand il y a des immenses capitalistes qui sont en concurrence avec des petits commerçants, etc., et qui peuvent, ou des travailleurs, et qui peuvent les écraser. Et donc, ce libéralisme-là était toujours opposé à tout ce qu'on a, tout. Je veux dire, si vous regardez l'histoire de la droite, elle s'est battue contre toutes les conquêtes sociales. Et donc, les conquêtes sociales, social-démocrates, si vous voulez, ne sont pas négligeables. Et elles sont des choses qui ont vraiment... on peut dire, ils n'ont pas transformé le capitalisme, mais dans un certain sens, ils l'ont fait. Parce que le capitalisme n'est plus ce qu'il était. Enfin, il n'était plus... Si vous prenez le capitalisme à la fin des années 70, où on est au sommet, si vous voulez, de la montée des conquêtes social-démocrates, mais vous arrivez à un capitalisme, vous allez en Suède, en Grande-Bretagne, etc. Vous avez quelque chose de très différent d'aujourd'hui et de ce qu'il y avait 50 ans plus tôt. Donc il ne faut pas négliger ou rejeter ça. Je pense qu'une moitié de la vie a été socialisée. C'est-à-dire l'enfance, la vieillesse, la maladie, le chômage, là, c'est plus ou moins une moitié de la vie qui est socialisée, une grande partie d'emploi public, etc. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cela. Évidemment, en France, c'est un peu particulier, parce qu'en France, la personne qui a peut-être fait le plus ces programmes sociaux-démocrates, c'était un catholique de droite maurassien qui s'appelait De Gaulle. Donc ça, c'est un peu une particularité. Vous n'avez pas eu, à l'époque, quelqu'un comme Olof Palme, par exemple, ou Bruno Kreisky en Autriche, ou Attlee en Angleterre, ou des sociaux-démocrates classiques. Celui qui a mis en place certains programmes sociaux-démocrates, c'était De Gaulle, qui était un type de droite, catholique, etc., mais qui l'a fait parce que c'était dans l'esprit du temps, si on veut. Et en face de lui, il avait un parti communiste, qui lui était en principe révolutionnaire, mais qui en pratique a toujours, y compris le PCF, comme le PCI en Italie, ont été sociaux-démocrates. Il n'y a aucun moment où il y avait une possibilité de prise du pouvoir de type léniniste et l'instauration de la dictature, même pas certainement pas en 68, et même pas à la fin de la guerre. Et le Conseil national de la résistance, c'est un programme social-démocrate. C'est un programme similaire au programme qu'il y avait dans d'autres pays, en Suède, enfin, les pays scandinaves, etc. Et donc, en réalité, il y a une espèce, particulièrement en France, il y avait un décalage entre la réalité et l'imaginaire, parce qu'on avait un président qui avait des programmes sociaux-démocrates qui étaient un type de droite classique, pas de droite libérale, mais vraiment de droite réactionnaire, et un parti communiste qui recrutait au nom de la révolution, mais qui de facto, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, de toute façon, appliquait ou soutenait des programmes sociaux-démocrates, et en Italie aussi. Alors, tout ça a changé. Alors, tout ce courant que j'appelle social-démocrate classique, pour lequel j'ai évidemment de la sympathie, parce que je le vois comme une résurgence après tous les problèmes, si vous voulez, du fascisme, etc., et de l'effondrement de la guerre de 14, de l'idéal socialiste classique du 19e siècle, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Ce programme-là s'est effondré, curieusement, en France particulièrement, mais aussi ailleurs en Europe, à partir de 68, et particulièrement lors de l'accession de Mitterrand au pouvoir en 80-83. La France est un peu le pays de tous les paradoxes, de mon point de vue, puisque le meilleur social-démocrate est un catholique réactionnaire qui était De Gaulle, et la mort de la social-démocratie est liée à l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste Mitterrand. Mais je vais expliquer ça. Donc, si vous voulez, mai 68, on en parlera dans les questions-réponses, si vous voulez, mais je ne veux pas parler de mai 68 trop parce qu'il y avait tout en mai 68. Il y a ce qu'on appelle, Christine Ross a écrit un livre qui s'appelle « Les vies multiples de mai 68 ». Il y a eu tout en mai 68, il y avait toutes les tendances. C'était une période très chouette, il y avait tout explosait, mais je veux dire, vous avez eu de tout. Mais ce à quoi, ce qui est ma cible aujourd'hui, c'est l'institutionnalisation de mai 68. C'est la lente montée des 68 heures dans les institutions qui culmine, qui commence à prendre le pouvoir dans la presse, dans les universités, dans les ministères, etc., qui commence à prendre le pouvoir à partir de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81. Et ça, c'est des gens, si vous voulez des noms, vous avez Kouchner, vous avez des nouveaux philosophes aussi sont un produit de cette époque, vous avez Lang, vous avez des gens comme ça, si vous voulez, sont des gens qui sont montés, qui sont arrivés au pouvoir avec Mitterrand. Alors Mitterrand, d'une certaine façon, pour moi, évidemment, tout s'est passé à contre-temps, parce que comme je l'ai dit, la social-démocratie était faite un peu sur la 4ème République, sûrement à la Libération, puis alors un peu sous De Gaulle, mais Mitterrand est venu avec un programme beaucoup plus radical. D'accord ? Il est venu avec un programme social-démocrate, qui restait social-démocrate, de nationalisation, qui n'avait pas eu lieu en France, comme autant qu'en Angleterre, par exemple, ou en Suède, donc comme nationalisation, qui pour moi n'était pas nécessairement bien pensée, et n'était sûrement pas adaptée à l'époque. Parce que l'époque, la crise de la social-démocratie et du keynésianisme se faisait sentir, et il n'y avait pas un programme cohérent. Je voudrais dire que quand il arrive en 81, il commence à implémenter son programme, en 83, et ça c'est très peu de temps après, il y a des déficits, il y a un problème de règle franc, etc., et on prend le tournant de la rigueur. Alors, le tournant de la rigueur, si vous voulez, pour moi, comme je suis quelqu'un de pragmatique, je ne vais pas le condamner, dans le sens que vous pouvez dire, voilà, on a fait une boulette, on doit aller plus lentement, etc., etc. Mais tel qu'il a été fait, et là, on a évidemment l'effet un peu de mai 68 dans les institutions. tel qu'il a été fait, ça a été une rupture complète avec les idéaux de la gauche classique. Et on a eu vraiment ce que je vais appeler dans le reste de l'exposé une nouvelle gauche qui s'est instaurée, qui a pris le pouvoir et qui est la gauche aujourd'hui qu'on rencontre, la nouvelle gauche, que je vais appeler la nouvelle gauche, par opposition à ce que moi je défends, qui est la vieille gauche. Alors la nouvelle gauche, si vous voulez, a complètement, pour moi c'est une transformation complète, je ne m'y reconnais pas. Quoi. Je veux dire, moi je dis gauche, mais je ne me reconnais pas dans le discours de notre partie de ce qu'on appelle la gauche. Alors c'est ça que ça m'amène au deuxième point, si vous voulez, au point le plus important, qui est un peu la critique de cela. Par exemple, vous avez eu deux transformations fondamentales dans le discours, dans les idéaux, dans les idées, etc. C'est que, par exemple, sur le plan intérieur, l'idée de socialisme, l'idée de socialisation des moyens de production a disparu. Elle a disparu même comme but à long terme et a été remplacée dans le discours par les droits de l'homme. Si vous écoutez la gauche, ils sont toujours pour les droits de l'homme. D'accord, ils sont toujours pour les droits de l'homme, ils sont contre les discriminations, ils sont pour... bon. Mais si vous parlez de l'économie, de la gestion de l'économie, du contrôle de l'économie, etc., ils ne vous disent rien. Celui qui est encore... qui incarne ça plus encore que les socialistes français, c'est Tony Blair. Je me rappelle, alors, Tony Blair venait, il parlait français très bien, il parlait au Parlement français, et il a dit, la gauche a appris qu'il n'y a pas une façon de gauche et une façon de droite de gérer l'économie, il y a juste une façon scientifique de gérer l'économie, et il n'a pas dit scientifique, mais il y a une seule façon de gérer l'économie, et la gauche a appris à le faire aussi bien que la droite. Et donc il n'y a pas de débat sur la propriété privée des moyens de production, sur le contrôle de la production, sur le contrôle démocratique de la production, ça n'existe plus. Parce qu'il y a une science économique, soi-disant, qui est en fait la version néolibérale de la science, parce que si vous regardez la science économique, vous voyez qu'il y a les keynésiens, il y a les keynésiens de gauche, il y a les marxistes, dans les économistes, il y a de tout dans l'histoire. Mais le paradigme dominant aujourd'hui, c'est le néolibéralisme, et c'est ça la science. Et ça, la gauche, comme la droite, l'applique. Ce sont des recettes économiques qui n'en discutent pas. Et ça, c'est le problème de Blair, et qu'il exprime finalement de façon plus crue que les socialistes français. Les socialistes français font la même chose, c'est une belle chose, etc. Tout le monde fait ça. Et donc, qu'est-ce que c'est alors le débat gauche-droite? Quel peut être le débat gauche-droite si on admet que le marché domine, que la démocratie est indépassable, la démocratie formelle, et que l'idéal, c'est les droits de l'homme? Parce que c'est exactement ce que disaient les libéraux dans le temps, et c'est ce que les libéraux disaient. Donc on est obligé de dire, non, on est d'accord avec les libéraux. Au lieu de dire, voilà, on fait kamikaze, on supprime le PS, on le rejoint avec l'UMP, ça c'était pas possible, l'ancêtre de l'UMP à l'époque de Mitterrand, c'était pas possible, les lettres de fromage à distribuer pour faire des choses pareilles. Donc c'était pas possible. Et donc vous devez trouver une raison d'être de la gauche, un sens d'être de gauche qui n'est pas de droite. Alors qu'est-ce qu'on a inventé? Alors là je vais peut-être être méchant, mais je pense que c'est une invention, une arnaque. On a inventé l'antifascisme et l'antiracisme. On a fait mousser le Front National, et ça c'est tout à fait clair qu'on a fait mousser, et du coup on a créé un danger fasciste contre lequel on a immobilisé la jeunesse. On a mobilisé les gens pendant des années contre Le Pen, qui était un danger, le retour du fascisme, etc., etc. Et on a aussi mobilisé les gens contre le racisme, en faisant croire que la droite était d'une certaine façon nostalgique de Pétain, nostalgique d'Algérie, une droite raciste aussi, etc. Et ça a été le tournant idéologique autour des années 80, et puis après, bon, évidemment, il y avait la crise du communisme, donc ce qui avait été un avantage pour les PC dans le temps, c'est-à-dire le prestige de l'URSS, devenait un inconvénient, c'est-à-dire le discrédit de l'URSS, donc tout se retournait, alors que, comme j'ai dit, les communistes avaient été des sociodémocrates européens, en fin de compte, des communistes français, italiens et tout, ça se retournait contre eux, donc tout ce qui avait été l'essence du socialisme et du social-démocratie européenne était discrédité et diabolisé au nom de l'anticommunisme avec lequel il n'avait rien à voir. La social-démocratie suédoise n'avait rien à voir avec le communisme. En Suède, le même processus s'est passé de diabolisation, de discrédit de la social-démocratie. Et on a remplacé, on a introduit, si vous voulez, ce que j'appelle la gauche morale. La gauche morale, c'est une gauche, si vous voulez, des valeurs. Vous entendez ça tout le temps, on a des valeurs, on est féministe, on est antiraciste, on est antifasciste, on est pour la démocratie, on est pour les droits de l'homme. Et ça a aussi permis, alors ça c'est encore l'astuce ce que je trouve la plus scandaleuse dans cette astuce, c'est qu'on a perdu la classe ouvrière. Parce que, en même temps qu'il y avait tout ce processus de transformation idéologique qui crée la gauche morale, on a eu les pertes d'emplois, les délocalisations, les fermetures d'entreprises. Alors qu'est-ce qu'on a dit aux travailleurs? On a dit, mais écoutez, Si l'économie, ça s'est géré scientifiquement, on ne peut rien y faire. Mais surtout, vous n'êtes pas raciste. Vous n'avez pas voté pour le Front National. Et s'ils ont voté pour le Front National, les statistiques montrent qu'ils le font, alors on dit, voyez, ça c'est des Dupont-Lajoie, c'est des beaufs, etc. Et donc on a renforcé la stigmatisation du peuple qu'on était en train justement d'abandonner de toutes les façons possibles et imaginaires dans le programme de la gauche. Et on a trouvé l'argument idéologique, la petite bourgeoisie intellectuelle, je vais utiliser cette expression, a trouvé l'argument idéologique favori qui était le politiquement correct, le féminisme, l'antiracisme, etc., pour montrer les ouvriers du doigt et dire, vous avez perdu votre emploi, mais n'avez pas voté pour le Front National, on ne peut rien faire pour vous. Hein, bon. Alors, évidemment, on s'est mis dans une situation que moi je trouve de plus en plus insupportable de ce qu'appelle la gauche morale, c'est-à-dire la gauche du discours sur valeur, les gens qui font claquer leur bretelle en disant qu'ils sont des bons démocrates, etc. Comme l'a dit quelque part Régis Debray, la morale, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même, pas quelque chose qu'on fait aux autres. Or, dans le discours dominant, on voit que c'est un truc qu'on fait aux autres, au peuple, essentiellement, dont on dit, voilà, le racisme, là, bon. Je ne conteste pas qu'il y ait beaucoup de racisme, hein, mais je ne suis pas convaincu que l'antiracisme du discours dominant fasse avancer les choses de quelque façon que ce soit. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de racisme, j'aimerais bien qu'il y en ait moins, mais je dis simplement. Alors, eh bien, on est revenu, si vous voulez, on a fait un retour en arrière, mais gigantesque. C'est pas simplement qu'on s'est dit débarrassé des illusions sur l'Union soviétique, et ça je m'en fiche. On est revenu en arrière avant 48 ou avant 45, 1845, avant les premières critiques que Marx faisait dans l'idéologie allemande à ce qui était la gauche morale de son temps. C'est Marx et les autres qui ont dit le problème c'est pas la morale, c'est pas les idées, c'est pas la dialectique hegelienne, c'est pas la religion, c'est pas de ça qu'il faut parler, c'est des structures sociales. Si vous voulez changer les choses, vous voulez changer les structures sociales. De vous attaquer aux structures sociales, pas faire la morale aux gens, pas faire des discours, etc. Ils étaient tous comme ça, ils avaient raison. Et tout ça, on a perdu. On a oublié ça. Et la gauche morale est devenue, si vous voulez, un peu, en fait, je dirais que c'est le substitut de la religion, une espèce de religion. On a une religion des droits de l'homme, on a une religion de la démocratie qu'on répète de façon. On fait des lois pour punir ceux qui sont racistes, qui sont révisionnistes, qui sont ci, qui sont ça. On fait des lois pour sanctionner les gens qui dévient la religion. On a créé une religion. Mais comme la religion n'est pas le christianisme, ça passe pour de gauche. Mais ça a des effets catastrophiques. Un des effets catastrophiques que ça a, premier effet, c'est l'Europe. On a fait avaler l'Europe au nom de l'antifascisme, de l'antinationalisme, etc., comme si la souveraineté française à l'époque de Gaulle, qui a fait la réconciliation en franco-allemand, entre parenthèses, c'est pas l'Europe qui l'a faite, de Gaulle et Adenauer, allait mener à la guerre, comme si des nations européennes souveraines allaient nécessairement s'entretuer. Et qu'il fallait créer cette bureaucratie européenne au-dessus, supranationale, pour résoudre le problème. Et ça, ça a été entièrement vendu. Si vous prenez le traité de Maastricht en 92, vous voyez que c'était vendu au peuple français et au peuple de gauche en France sur des arguments antinationalistes et antifascistes. Le Pen était pour, donc on était contre. Enfin, plutôt le Pen était contre, donc on était pour, etc. Sans réfléchir. Le problème de l'Europe, moi j'ai rien contre l'Europe. Je ne peux pas être contre un continent. J'ai rien contre l'unification de l'Europe. Je trouve ça bien l'unification de l'Amérique latine. Mais je suis contre la perte de souveraineté. Parce que vous pourriez très bien imaginer une unification d'Europe qui se fait par des accords intergouvernementaux sanctionnés par le Parlement et des accords révisables. C'est-à-dire, vous dites, voilà, on fait cet accord, mais on peut en sortir si on veut. Quand on a créé, tout ce qu'on a créé, l'euro par exemple, quand on voit les problèmes maintenant en Grèce, on est en Italie, au Portugal, etc., en Espagne, et ces problèmes-là, si vous voulez, on va créer un truc supranational qui n'est pas contrôlé par le gouvernement, une institution totalement antidémocratique, et de facto, la Commission européenne, c'est ça. C'est un pouvoir non démocratique, bureaucratique, si vous voulez, qui est encore, si vous voulez, qui est comme les pouvoirs des capitalistes sur le reste du peuple, encore en pire, on a recréé une espèce de monarchie absolue, si vous voulez. L'équivalent, sauf que c'est une espèce de bureaucratie plutôt qu'une seule personne, on a créé une bureaucratie qui a un pouvoir énorme, qui prend énormément de décisions qui sont entérinées après par les gouvernements nationaux, qui sont obligés de le faire. Et toutes les mesures, tous les problèmes de libre-échange, tous les problèmes de commerce, tous les problèmes de monnaie, tous les problèmes économiques, tous les problèmes qui sont au cœur de la réflexion de la gauche classique, sont disparus, sont gérés par la Commission européenne. Et tout ça, on l'a fait au nom de fantasmes. Encore une fois, je ne suis pas contre la coopération, mais je trouve qu'on devrait le faire comme l'a fait la Suisse. La Suisse a de la coopération avec ce qu'ils appelleraient le reste de l'Europe, mais sur une base souveraine. La Suisse n'a pas abandonné sa souveraineté. Alors, je n'aime pas beaucoup les politiques suisses, mais au moins, le principe me paraît simple. Le principe démocratique me paraît simple. On a abandonné la démocratie. Alors, évidemment, les résultats, c'est la dépolitisation. Vous avez le résultat avec les européennes, vous avez le résultat avec les régionales, les gens ne votent plus. Pourquoi les voter pour des guignols qui sont des représentants des présidents de région? Enfin, à la limite, on peut dire, ils pourrait y avoir un intérêt pour le président de région, mais je pense que même pour les élections européennes, les élections nationales, etc., vous aurez un désintérêt similaire à celui de l'élection de président de région, parce que vous n'avez plus de politique, vous n'avez pas d'autres politiques possibles. Si vous venez avec un programme commun de gouvernement tel qu'il existait en 78 ou 81, c'est impensable. L'Europe n'accepterait pas, ça sera en contradiction avec toutes les règles de libre-échange de l'Europe. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et si vous ne pouvez pas l'imaginer, allez, de quoi discute-t-on? De quoi discute-t-on? Ah, d'un burqa. Oui, on trouve ça ridicule qu'on discute d'un burqa, mais qui a créé ce problème? Si ce n'est la gauche morale qui a introduit, si vous voulez, qui a remplacé le discours sur les structures sociales par un discours sur les valeurs. À partir du moment où on a porté le discours sur les valeurs, on se ramasse dans la gueule, si vous me permettez l'expression, le discours sur les valeurs de droite. Parce que, de même que le discours sur les valeurs de gauche, antiraciste, antifasciste, est parfaitement compatible avec une droite, si vous voulez, libérale, droite à la Giscard d'Estaing, droite capitaliste, ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ils ne sont pas sexistes, ils s'en fichent, ils ne sont pas pétainistes, tout ça, c'est des fantasmes, ils sont pour le libre marché, ils sont pour l'Amérique, ils s'en fichent. Mais évidemment, on a aussi alors une droite, si vous voulez, qui est beaucoup plus efficace au niveau du discours sur les valeurs, qui est la droite de l'autorité du père de famille, du maître d'école, chanter la Marseillaise, se lever en classe, etc. etc. Enfin, je vous passe les détails, vous les connaissez, l'identité française, la burqa, l'anti-islam, l'agitation contre l'islam, etc. Et donc, on a évidemment, ça, cette droite-là, une fois qu'on a mis le discours sur ce terrain des valeurs, elle récupère ce discours, elle est beaucoup plus efficace que nous, et donc on est coincé. Alors quelqu'un m'a demandé avant de venir si j'avais parlé de la vraie gauche, mais je veux bien, mais le problème c'est que je ne sais pas où elle est. Parce que quand je regarde l'extrême gauche, en France du moins, j'ai l'impression qu'elle est comme la gauche morale. Et seulement la gauche morale, mais en plus fort. Elle hurle encore plus quand il y a une petite phrase d'un président de région, par exemple, qu'on peut critiquer comme raciste, je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un, mais je veux dire, ils jouent plus que les autres, ils renforcent encore, ils jouent le truc de la gauche morale, mais en plus fort. Ils n'ont pas d'alternative, réellement. Et donc, ils sont aussi rentrés dans le discours des valeurs, ou bien, parfois, il y a le discours que vous entendez parfois du retour à Marx. Alors, on va revenir à Marx, parce que Marx, c'est avant Staline, Lénine, tout ça, ils ont foutu le bordel. Mais Marx, ça c'est le truc pur, on va retourner à Marx, on va lire Marx, on va étudier Marx, etc. Comme on pourrait étudier Jésus-Christ dans d'autres traditions, ou Mahomet dans d'autres, et comme si c'était la source de la solution. Et d'une certaine façon, on fait un Marx complètement utopique, complètement découpé de l'histoire du XXe siècle, de l'histoire des transformations sociales, etc. Et donc on a un Marx politiquement correct, acceptable, qui n'est lié à aucun crime, aucune guerre, aucune lutte, aucune rien, une espèce de... Bon. Et franchement, je ne vois pas grand-chose d'autre pour le moment. Alors que faire? Bon, on y arrive. D'abord, on pourrait dire qu'on va faire la révolution. Mais ça, comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu de révolution. En fait, en Europe, si vous regardez l'histoire de l'Europe occidentale, vous pouvez voir que les révolutions, au sens où elles ont été fantasmées par le mouvement communiste, trotskiste, maoïste, etc., non seulement n'ont pratiquement jamais eu lieu, mais les vrais effondrements, les vrais changements de régime violents ont presque toujours été de droite. En Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, les prises de pouvoir violentes ont toutes été faites par l'extrême droite. Et moi, je suis prêt à parier, je ne sais pas ce que ça arrive, mais que s'il y avait vraiment un effondrement économique, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus retirer de l'argent de votre banque, vous n'avez plus d'argent, il y a 1000% d'inflation par mois, toutes vos économies fondent, etc. S'il y a vraiment un effondrement, je ne parle pas de la crise actuelle qui est grave, mais qui n'est pas ce que je décris, vous avez une crise à l'Argentine, etc., vous aurez une révolution de l'extrême droite. Vous n'aurez pas Le Pen, vous aurez autre chose, vous aurez de l'extrême droite. Vous aurez... Et donc, il n'y a pas de perspective de changement radical. Et donc, moi, je pense qu'on est obligé de revenir à des choses simples, petites, et de commencer par là. Ceci dit, les néolibéraux, par exemple, ils n'ont jamais, les néoconservateurs aussi, ils n'ont jamais fantasmé la révolution. Ils ont dit, on va changer les choses petit à petit. Mais en 20 ans, ils ont changé beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont détruit beaucoup. Mais ils n'ont pas fait d'un seul coup. Et donc, je pense qu'il faut reprendre. Alors, maintenant, je vais terminer par quelques idées, si vous voulez, mais des idées très limitées. Et j'espère simplement vous encourager à réfléchir dans le cadre. Premièrement, c'est très important de relégitimer, de rétablir la perspective socialiste fondamentale de la socialisation des moyens de production. Même si ce n'est pas demain qu'on va le faire, même si on ne peut pas le faire, ça change, à mon avis, tout dans les luttes. Parce que quand on part du point de vue « tout est à nous, rien n'est à eux », pour prendre un slogan, Ça change tout dans les luttes. Ça change tout dans les luttes syndicales en particulier. Parce que si vous partez de l'acceptation de la légitimité, c'est une question de légitimité de la propriété privée dans la production, alors vous dites simplement les travailleurs doivent avoir une part de gâteau, un peu plus de dignité, un peu plus de considération, etc. Et si vous dites non, tout est à nous, rien n'est à eux, mais pour le moment on peut rien faire, mais quand même quand on se bat, on parle d'un point de vue de légitimité qui est très différent. Et ça c'est très important psychologiquement à mon avis. Le deuxième point, c'est pour le court terme. Il me semble qu'il faut tout faire pour sauver ce que j'ai appelé les acquis sociaux-démocrates. Et essayer de garder, il en reste. Il reste encore la sécurité sociale, l'enseignement. On ne peut pas dire qu'ils ont tout détruit, mais ils sont en train de chuter. Ils font le processus de saucissonnage. Et ça, il faut le rejeter. Mais comme l'Europe, qui a été faite avec l'approbation de la gauche, de la nouvelle gauche, et de la gauche morale, etc., a été construite institutionnellement pour rendre ce détricotage des acquis sociaux inévitable, il faut ignorer l'Europe. Alors, je ne sais pas comment faire, moi, je ne suis pas technicien de la politique, etc., mais il faut, d'une certaine façon, ne pas se soumettre aux dictats européens. Je ne pense pas qu'on peut sortir de l'Europe comme ça du jour au lendemain, mais on peut faire comme si elle n'existait pas sur un certain nombre de choses. Ce que les pouvoirs actuels ont fait lors de la crise financière, parce que les pouvoirs actuels dans la crise financière ont créé des déficits budgétaires qui n'étaient pas supposés faire, et que si on l'avait fait pour des raisons sociales, auraient été considérés comme totalement illégitimes. Donc l'Europe s'est construite sur un programme explicitement anti-keynésien, c'est-à-dire avec interdiction des déficits. D'accord ? Ça, c'était l'idée même de l'Europe de 1992. C'est ça, c'est interdiction des déficits au-delà d'un certain pourcentage. Et puis vient la crise, alors on dit, bon là, on peut pas continuer comme ça. Et bien, on fait ça pour le reste, on fait ça pour le social. On dit, l'Europe, on s'en fiche. On s'en fiche de ce qu'on a signé, on n'obéit pas aux traités, on les contourne. Enfin, ça, c'est une question technique que je laisse, mais il faut se mettre ça dans l'idée. C'est que, au lieu de dire on va renforcer l'Europe, non, on ne va pas renforcer l'Europe telle qu'elle existe. L'Europe, c'est ce qu'elle est, mais bon. Alors, l'autre aspect qui me touche plus, ou qui est plus celui sur lequel je me bats d'habitude, parce qu'ici, je parle de choses auxquelles j'ai pensé au cours du temps, mais qui ne sont pas ce dont je parle d'habitude. Ce que je parle d'habitude, c'est la paix, la guerre, l'impérialisme, etc. Là, je pense que l'Europe peut être un facteur de paix, les citoyens européens peuvent être un facteur de paix dans le monde, par rapport aux Américains. Mais pour ça, il faut regagner notre souveraineté par rapport aux États-Unis. De même, il faut ignorer l'Europe, il faudrait ignorer l'OTAN. C'est une catastrophe énorme de la France, qui était le seul qui, bien que de façon très, très modérée et symbolique, était un peu en dehors de l'OTAN, il soit rentré complètement avec notre ami Sarkozy. Mais il faut essayer de faire en sorte d'en sortir. Par exemple, la Hollande, qui est un pays très pro-américain, se retire même d'Afghanistan. Au moins, ils ont des problèmes pour y rester. Parce que comment ça va se terminer, mais bon, il y a des conflits. C'est très très important symboliquement de sortir d'Afghanistan. Dominique de Villepin a fait une intervention récemment dans ce sens. C'est très important de se rendre compte qu'il y a des forces en Europe, des politiciens, etc., qui, des hommes politiques, y compris traditionnels, si vous voulez, qui voient ça comme important. Et pour moi, c'est important que l'Europe regagne sa souveraineté par rapport aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre du Vietnam, en plein anticommunisme, avec un anticommunisme fanatique dans le gouvernement européen, il n'y a pas un soldat européen en Vietnam. Les Américains ont voulu en vouloir, mais Harold Wilson en Angleterre n'aurait pas envoyé de soldats anglais. De Gaulle n'aurait sûrement pas envoyé de soldats français. Maintenant, tous les soldats européens servent de supplétifs aux Américains. Je dis supplétifs parce que si les Américains s'en vont, les Européens sont partis un quart d'heure plus tard. En fait, ils sont partis avant. Je veux dire, ils ne vont pas rester un quart d'heure seuls face aux Afghans. Si les Américains s'en vont, ils sont coupés en petits morceaux. Donc, l'Europe, c'est vraiment des supplétifs. On sert de supplétif aux Américains, ça n'indigne personne, ça ne choque personne. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de protestation, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement, de pétition, d'agitation dans les facultés, dans les intellectuels, rien. Mon affaire a complètement disparu, il faut recréer ça. La Palestine, de nouveau, c'est un truc où l'Europe pourrait avoir une position moins alignée sur les États-Unis et par conséquent sur Israël. Et par exemple, une initiative, bon, c'est très particulièrement important ici, puisque vous avez le port de Sète et Agrexco, etc., dans votre région, c'est le mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions, appuyé par toutes les façons possibles et imaginables, le mouvement de boycott d'Israël, de désinvestissement par rapport à Israël, et ultimement, c'est pas pour demain à la veille, c'est pas demain à la veille, mais enfin, de sanctions. Alors, ça, c'est des petites idées, si vous voulez reprendre le combat social, reprendre. Combat pour un contrôle effectif social de la partie de la production qui était contrôlée et reprendre un combat pour la paix mais qui soit explicitement anti-impérialiste. L'obstacle, alors je vais dire deux obstacles auxquels moi j'ai pas de solution, peut-être vous en avez. Le premier obstacle que j'ai, c'est que je vois pas de sujet. Si vous voulez, pendant la vieille gauche, on a un sujet actif qui était en gros la classe ouvrière, prolétariat, si vous voulez, autour duquel pouvaient se faire des alliances. Mais maintenant, je ne vois pas de sujet, si vous voulez, collectif, qui puisse être l'agent d'un renouveau. En particulier en France, d'ailleurs en Europe aussi, ce qui était, si j'utilisais ce terme, la classe ouvrière, est terriblement divisé à cause de la question de la religion, et particulièrement de l'islam. La droite, évidemment, a cette astuce très intelligente de focaliser le problème sur l'islam, d'agiter d'autant le problème de l'islam, le voile, la burqa, les caricatures, etc., etc. Mais la gauche tombe trop souvent dans le piège, et je pense qu'il faut absolument consciemment lutter. Moi, je ne suis pas religieux, je pense le plus grand mal des religions, mais je suis tout à fait pour la laïcité, mais il faut une laïcité honnête, il faut une laïcité qui ne soit pas sélectivement contre une religion particulière, et il faut un mouvement, si vous voulez, dans la population, qui accepte le dialogue, un processus de paix, comme on dirait au Moyen-Orient, avec les musulmans de France, de Belgique. Et donc, il faut une discussion avec eux, d'accord, une discussion honnête, pas aller au-delà de la perpétuelle stigmatisation, la perpétuelle confrontation, etc., où il n'y a pas de réel débat, il n'y a pas de réelle discussion, etc. Et donc, ça, c'est un truc très, très important, parce qu'on n'unifiera pas les forces populaires en France, ou en Belgique, ou ailleurs en Europe, si on n'unit pas les musulmans et les non-musulmans, parce que les musulmans représentent une partie importante de ce qui, dans le temps, aurait été appelé la classe ouvrière, le prolétariat, etc. Vous ne pouvez pas les ignorer, vous ne pouvez pas, pour des questions, et particulièrement sur la Palestine, parce que sur la Palestine, le discours sur Israël en France rend les gens fous. Je veux dire, il y a de quoi devenir fou. Je veux dire, c'est tellement biaisé en faveur d'Israël que, évidemment, les gens deviennent fous furieux. Et là, évidemment, on doit reconnaître que là, évidemment, on doit parler avec les musulmans et au moins reconnaître que là-dessus, ils ont raison, même si après, sur la laïcité, on peut avoir des débats, etc. L'autre problème auquel je n'ai pas de réponse, c'est le déclin de l'Occident. Alors, utiliser l'expression déclin de l'Occident, c'est particulièrement provocateur, puisque c'est le titre du livre de Spengler, qui était un proto-nazi après la guerre de 14. Mais je ne vais pas l'utiliser exactement, donc je ne connais pas ce livre en détail, mais l'expression me paraît très juste. Au début du XXe siècle, l'Occident contrôlait une grande partie du monde, et au 19e, même l'Amérique, si vous voulez, était, ou au 18e, était contrôlée par les pays occidentaux, mais après, au début du 20e siècle, il y avait toute l'Afrique, une bonne partie de l'Asie, etc. À Shanghai, on pouvait interdire un parc aux chiens et aux Chinois, mais délicatement, on a mis une affiche interdite aux chiens et aux Chinois. On ne va pas faire ça aujourd'hui. Le 20e siècle a complètement bouleversé ça. S'il y a une transformation sociale importante au 20e siècle, c'est la décolonisation. C'est l'émergence, justement, je vous ai parlé de cet interland que nous avions au moment de notre développement, qui était ce qu'on appelle maintenant le tiers-monde, ce qu'on appelait les colonies. Et ce monde-là nous échappe complètement. Complètement. C'est aussi un argument en faveur d'une politique de paix, c'est que, ou un monde multipolaire, comme disait Chirac, qui était lucide là-dessus, c'est qu'on ne contrôle plus le reste du monde. Et c'est un fantasme qui continue à exister dans la gauche et aussi dans la droite, de faire comme si on contrôlait, on va dire, aux Chinois ce qu'ils doivent faire au Tibet, on va dire aux Russes ce qu'ils doivent faire ici, aux Iraniens ce qu'ils doivent faire. Ça ne marchera pas. Les Iraniens font ce qu'ils veulent, et les Chinois aussi. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de nous occuper de nos affaires et d'essayer de vivre en paix avec eux. Moi, je trouve que c'est positif, parce que je pense que la décolonisation était une nécessité tragique, d'une certaine façon, mais positive. Et de même, les transformations de l'Europe font que vous ne pouvez plus trouver des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes Français prêts à, se faire tuer à Verdun ou sur la Somme. Or, en 14, on les trouvait. Ils étaient forcés, si on veut, mais enfin, c'était possible. Maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, s'il y a 10 soldats tués en Afghanistan, ça crée un scandale. Donc, on n'est pas prêt à se battre, on n'est pas prêt à s'entretuer, c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est un grand progrès. Mais le fait est qu'on décline. On décline, ça veut dire aussi qu'on se trouve face à des Chinois, par exemple, qui disent, quand on fait faire des restrictions d'importation textile de la Chine, que je peux comprendre, ils disent, oui, mais nous, on doit vendre 20 millions de chemises pour construire un Airbus. Mais comme j'ai écrit dans un article du Monde Diplomatique, le jour où ils construiront des Airbus, qui fabriqueront une chemise. Alors j'ai réécrit ça dans un journal en Belgique, et quelqu'un dans la rédaction a dit, enfin, ils ne vont jamais construire d'Airbus. Sur quoi j'ai répondu, non, bien sûr, ils vont leur donner un autre nom. Mais bien sûr, ils construiront des Airbus. Donner un nom chinois, mais ils vont construire, ils construiront tout ce qu'on fait. Ils seront à l'avant-garde de la technologie d'ici peu, et les Indiens aussi, il ne faut pas se faire d'illusion. Donc, on doit gérer notre déclin. Or, tout le problème que je vois dans les manifestations culturelles et intellectuelles de ce qui se passe en France maintenant, particulièrement avec un type qui est vraiment scandaleux, beaucoup d'égards, pas seulement pour ses remarques racistes, mais Zemmour, parce que c'est qu'on vit dans une France, une Europe qui est dominée par la nostalgie du passé, de notre glorieux passé, avec ses aspects pas très jolis, mais notre glorieux passé. Et on ne regarde pas vers l'avenir. On n'essaie pas de s'inventer un avenir dans lequel nous devons vivre dans un monde que nous ne contrôlons pas et où nous ne sommes pas les plus puissants, nous ne sommes pas les plus forts. Et n'imposons pas notre volonté au reste du monde. Et ça, c'est vraiment le défi auquel je n'ai pas de réponse. Pour moi, c'est le défi le plus important de notre époque. C'est le défi qui justifie à la fois la défense de la paix et du socialisme, mais comment l'accomplir, comment l'organiser, avec quelle force, etc. Ça, je vous laisse réfléchir à cela. Merci.